Oui, alors, la barge russe, qui est tous les jours, avec Johnny Chirbeck, qui parle de philosophie, d'actualité, en soi, assez intéressant, n'est-ce pas? Et par quinzaine, donc, le mercredi soir, il y a The Russian Fortune, à 21h, 21h30 même, avec Helmut Schwartz. C'est essentiellement musical, n'est-ce pas? Et il fait quelques à-propos avec la barge russe, Johnny Chirbeck. C'est deux compères travaillent ensemble. Ils sont l'un pour l'autre et l'autre pour un, n'est-ce pas? Leurs émotions peuvent aller de pair, mais très, très rarement, je dirais. L'une peut aller sans l'autre, et l'autre aller sans l'autre.
Barge russe 1082, pour ceux qui préfèrent. Vérité et plaisir. Donc, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui, ça va être Parménide par Martin Heidegger, en parlant de l'oubli et de la vérité. C'est très proche de l'épileptique, pour ceux qui ont pu suivre hier, qui a pu être décrite, analysée, c'est une fruit d'analyse, qui apporte cette... l'épileptique, qui pose l'épileptique conscient de sa maladie et conscient de sa proximité avec l'inconscient, de la vérité. La vérité au sens, comme on va voir avec Heidegger, dans le sens rectitude, rectiligne, quoi, droit. Le plaisir de pouvoir communiquer justement avec l'inconscient. Donc ça, comme je disais hier aussi, ça s'adressait aux épileptiques davantage, parce que les autres, ça peut intéresser aussi beaucoup d'autres personnes. Cela étant, c'est quand même cette maladie. Moi, j'ai parlé à d'autres épileptiques, hein, mais ils n'étaient pas du tout dans ce que je racontais, quoi. Je sentais que ça ne les touchait pas. Mais donc là, dans tous les épileptiques, peut-être que ça n'en touche aucun. En tout cas, moi, ça me concerne, et comme c'est mon émission de radio, eh bien, je partage mon émission de radio avec vous dans le but d'avancer. Je partage ma quête de savoir, quoi. Savoir quoi, je ne sais toujours pas, mais de savoir. Du savoir... On a besoin afin de savoir ce qu'il faut savoir. Donc j'y vais. Donc Heidegger, au chapitre 2, qui se nomme Première méditation sur la mutation de l'essence. Nous sommes confirmés. Donc c'est à propos de Parménide.
Du 6e siècle avant Jésus-Christ.
Une analyse qu'il fait sur Parménide. Nous sommes confirmés dans cette supposition si nous remarquons que le faux ou le non-vrai, par exemple, un jugement incorrect, est une manière de non-savoir, dans laquelle le vrai état de choses se dérobe à nous d'une manière qui, sans certes lui être identique, n'est pas sans rapport avec l'oubli. Donc, le vrai état des choses se dérobe à nous. Mais il remarque que ce n'est pas sans rapport avec l'oubli, que les Grecs éprouvent à partir du scellement. La pensée grecque conçoit-elle l'essence du... M. Venos, à partir du scellement. Donc, scellement, j'ai pas fait de recherche. C'est pas intéressant. En tout cas, pour moi, ce que je veux relever, c'est pas important. C'est pourquoi il se pourrait aussi que le nuage lui-même, invisible de l'oubli, l'oubli de l'être nimbe l'ensemble du globe terrestre et de l'humanité qui porte, un oubli qui n'est pas celui de tel ou tel étang, mais de l'être lui-même, un nuage qu'aucun avion, eût-il l'altitude la plus élevée, ne saurait traverser. La nimbe de l'oubli. Ce qui en fait s'avère être, c'est une espèce de cloud de l'oubli, même plus qu'un cloud, parce que le cloud c'est immatériel, mais le nom de l'oubli aussi, tu me diras. Mais c'est on peut mais qu'en fait, que c'est la nécessité. L'oubli est nécessaire. C'est pourquoi il se pourrait aussi que cet oubli, même de l'être, survienne comme détresse et devienne nécessaire, qu'au regard de cet oubli de l'être doive s'éveiller une pensée qui se souvient, qui se tourne vers l'être lui-même et vers lui seulement, méditant l'être lui-même dans sa vérité. La vérité de l'être est non seulement, comme toute métaphysique, l'étant eut égard à son être. À cette fin serait requise avant tout une expérience de l'essence de l'oubli. Et donc là, moi j'ai annoté que c'est le savoir intrinsèque. Et ça me rappelle, en fait, ce matin même, j'ai vu une fille, on était dans la même classe en 6e. Donc tu vois, j'avais 11 ans, et en 5e, 12 ans. Et là, j'ai 43 balais, elle aussi. Et je l'ai croisée, et je l'ai vue, ah, tiens, un truc. Et je l'ai reconnue. Et donc là, il y a eu le souvenir pour elle. Et pour moi, en la voyant, ça, je suis très physionomiste. Donc je me rappelle de beaucoup de visages. Donc là, par rapport à ce que vient de dire Heidegger, je vais vous le relire. L'oubli de l'être. C'est pourquoi il pourrait aussi que son temps, une expérience de cet oubli, même de l'être, survienne comme détresse et devienne nécessaire. Qu'au regard de cet oubli de l'être, doivent s'éveiller une pensée qui se souvient, qui se tourne vers l'être lui-même et vers lui seulement, méditant l'être lui-même dans sa vérité, la vérité de l'être et non seulement, comme toute métaphysique, l'étant eut égard à son être. Donc en fait, ça, forcément, quand je lui dis « Ah mais oui, on était dans un... » je lui dis son nom, « Ah, et là, elle s'est retournée sur elle-même en fait. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ce petit brin. » Oui, je me rappelle. Bon, voilà. C'est pour vous dire que tu te donnes un souvenir et ça te permet de te retourner sur toi-même. Oui, c'est bien. Alors, si on va plus loin dans l'étude, ce devoir, le Dieu vétérotestamentaire. Tu ne dois pas. Ce devoir est arrivé sur les tables. Un Dieu grec n'est jamais un dieu qui commande, mais un dieu qui montre, indique. Le dieu grec, montre, indique. Zeus. Bon, tu dois faire ça et tu ne dois pas faire autrement. Le noumène romain, en revanche, par lequel on caractérise les dieux romains, signifie au contraire injonction et volonté, et a le caractère de commandement. Donc c'est pas « oui, il faut que tu ailles par là ». Non, « tu dois aller par là ». La différence. Et j'ai trouvé ça remarquable, cette comparaison entre le dieu grec et le dieu romain. Et le dieu romain, c'est nous, hein, c'est les latins. C'est la France, Italie, Espagne, notamment. Alors, Portugal, je sais pas. Je pense que c'est plus latin, mais... vous avez déjà entendu les Portugais parler ? Non, je sais pas où je suis. Hein. Des fois, j'ai l'impression qu'ils parlent en russe, des fois en français, des fois en portugais. Donc si je vais plus loin.
Nearly naked and ashamed.
Statue of Liberty par le groupe XTC. Que l'Occident, aujourd'hui encore et aujourd'hui de façon plus décisive que jamais, pense le monde grec de façon romaine. Voilà, c'est ça. Que l'Occident, aujourd'hui encore et aujourd'hui de façon plus décisive que jamais, pense le monde grec de façon romaine. Donc, le monde grec, je pense que c'est la démocratie. C'est-à-dire latine, c'est-à-dire chrétienne. C'est-à-dire romane, c'est-à-dire moderne européenne, est un événement qui concerne le centre le plus intérieur de notre être là historique. Donc, le être là, c'est le Dasein de Heidegger. Et lui, Heidegger était allemand, donc c'était plus protestant par la suite. Moi-même, déjà, Luther avait déjà fait sa loi là. Le politique, qui en tant que. Politikos, hein, en tant que politique, a surgi autrefois de l'essence de la polis, P-O-L-I-S, grec, donc de la multiplicité grecque, est désormais compris de façon romaine. Le mot grec politique signifie quelque chose de romain. Le mot grec politique signifie quelque chose de romain. Depuis le temps de l'Imperium, il n'a plus de grec que le simple nom. Alors, plus loin encore, dans le chapitre 3, élucidation de la mutation, la veritas, donc la vérité, comme rectitudo, est pour ainsi dire vouée, bien qu'elle possède une autre origine, à reprendre en elle l'essence de l'aletheia sous la forme désormais représentative de c'est un mot grec, j'aurais pu le dire sûr. La rectitude de l'énoncé est un se régler sur ce qui est institué. La rectitude, c'est se régler sur ce qui est institué, sur ce qui est bien établi, sur le droit. Et donc ça, c'est la vérité. La rectitude est une sorte la vérité, comme on a dit plus tôt. Depuis le haut Moyen-Âge et à la suite de la romanité d'Aletheia, présentée comme... Aletheia, c'est la vérité... Aletheia, c'est la vérité ou la révélation en philosophie, sortie de l'étang, hors du retrait. Ça, c'est la sortie de l'étang pour Heidegger. Donc depuis le Moyen-Âge, à la suite de la romanité, l'aletheia présentée comme un est devenue un. Veritas est adéquation de l'ensemble de la pensée occidentale de Platon à Nietzsche pense dans le sens de cette délimitation de l'essence de la vérité en tant que rectitude, donc vérité. Cette délimitation de l'essence de la vérité est le concept métaphysique de la vérité. De Platon à Nietzsche. Donc là, c'est en 1916, je crois, qu'il a été écrit ce bouquin. Donc Nietzsche est mort depuis 16 ans. C'est assez récent encore. Le tenir pour vrai de la ratio, du réor, devient la mise en sûreté qui anticipe et étend sa portée sur tout ce qui est. La ratio devient compte, calcul. La ratio est le se conformer à ce qui est correct. La ratio est une facultas animi, une faculté de l'esprit humain dont l'actus s'accomplit au sein de l'homme. L'essence de la vérité en tant que veritas et rectitudo est privée d'espace et de sol. La vérité, ai-je noté, est ailleurs. la rectitude, la vérité. Ça appartient à un monde qui est à côté de nous, qui est là, mais qui est très, par les temps qui courent, très souvent pas écouté, ignoré. Il faudrait que la vérité est ailleurs. Vous vous rappelez ce poster dans la cave de l'agent Mulder dans X-Files? Il a un poster avec un ovni et c'est écrit « La vérité est ailleurs ». La question était par conséquent appelée à se poser relativement à la vérité. Comment un processus de l'âme ou de l'esprit à l'intérieur de l'homme peut-il en général s'accorder avec les choses hors de lui ? S'esquissent alors les tentatives d'explication à l'intérieur d'un champ non élucidé. Comment un processus de l'âme ou de l'esprit à l'intérieur de l'homme peut-il en général s'accorder avec les choses hors de lui ? Avec la vérité, qui est hors de lui, mais qui vient de lui. Selon moi, et Heidegger ne le dit pas comme ça, et cette vérité qui existe, on ne serait pas là, elle existerait quand même. La vérité, c'est peut-être elle qui a bouleversé c'est même sûr que c'est elle qui bouleverse le temps, sans arrêt. C'est ce que je dis. J'espère que l'émission d'hier aussi, vous avez pu la suivre, parce qu'elle était super intéressante sur l'épilepsie. C'est la vérité, c'est ce qui joint les mondes. C'est même pas ce qui joint, c'est le monde en fait. Cette vérité dont parle Heidegger. Le sortir de soi dont parle Heidegger, le aletheia, pour mieux le comprendre, sortir de soi, sortir de l'étang. De l'étang, le participe présent du verbe être. Vous allez mieux comprendre, il y a le deuxième album de Heldon, Richard Pinas, de années 70, 76, je crois, je sais plus, c'est pas important. En tout cas, la couverture de cet album, c'est une manif. C'est un mec qui sort d'une manif à Paris, sûrement, qui est pris par les policiers ou je sais plus quoi. Donc tu t'attends à un album ultra, pas punk, mais violent, enfin hyper. Et en fait, et là c'est carrément autre chose. C'est de la musique de Pinas. Toi. Je vais vous passer un morceau là. Sur un 45 tours, j'ai un morceau. C'est sortir de l'étang. Donc même par cette photo, quand tu fais une manif, par exemple, dans le cas de cette photo à l'ETIA de l'album. Tu vois qu'il sort de lui, sortir de l'étang. C'est ça, cet autre monde. Ça nous met dans une autre personne. Et c'est comme l'épilepsie. L'épilepsie se fait. Une fois, j'ai fait une crise la plus grosse que j'ai jamais faite. J'étais tout seul, j'étais pas en France. Et la personne a dit, ce n'était pas lui. Donc là, je vais vous passer. Omar Diop, qui est sur l'album Aletheia. J'ai pas l'album, mais j'aimerais bien l'écouter un jour d'ailleurs. Je cherche. Voilà, je l'ai retrouvé. C'était le 15 d'or. C'est Pinas qui me l'a vendu. C'est un original. Qui me l'a filé. Omar Diop, Blondin. Disjoncta, c'était son label. J'ai un album de Disjoncta et qui est la qualité est vraiment. Bah, à l'époque c'était plus ou moins commun, mais maintenant. Voilà un extrait de l'album Aletheia. Thank you. là parce que je vais vous parler de la technique. Mais la technique entendue au sens moderne, c'est-à-dire comme technique des machines motrices, est elle-même déjà la conséquence essentielle, non le fondement, d'une mutation du rapport de l'être à l'homme. Une mutation du rapport de l'être à l'homme. Le machinisme moderne est l'instrument métaphysique d'une telle mutation qui reconduit à une essence cédée de la technique, inscrite, techné, inscrite déjà dans ce que les Grecs nommaient texoun. Peut-être la mutation du rapport de l'être à l'homme qui se manifeste dans la technique est-elle telle que l'être lui-même se dérobe à l'homme et que l'homme moderne sombre dans un oubli insigne de l'être. Qu'en réalité, l'homme est parti de sa qualité première par l'outil, par la machine. Et ça, je vais en parler à la fin, en conclusion. Donc l'outil-machine retire la personne du côté invisible et le mute en individu quelconque. Ah ouais, on va jusqu'au bout. Hein. En finalité, ça donne ça. Ensuite, alors là, on est dans le chapitre « La dernière parole des Grecs sur la contre-essence ». J'ai annoté « Le regard de la réflexion ». De l'amalgame, alors qu'est-ce que ça veut dire ?« Le regard, même le regard humain, n'est pas éprouvé de façon originaire. La saisie de quelque chose, mais l'exposition de celui qui voit, à partir de laquelle un regard qui saisit devient seulement possible. Si l'homme ne fait plus l'expérience du regard qu'à partir de lui-même, il conçoit le regard précisément à partir de soi, en tant que je et que sujet. Le regard n'est plus alors qu'une activité subjective tournée vers des objets. Si l'homme, toutefois, ne fait pas l'expérience de son propre regard, de ce qu'est le regard humain, à travers la réflexion sur soi, de celui qui se représente lui-même voyant, si bien plutôt laissant venir à lui sans la moindre réflexivité de ce qu'il rencontre, il fait l'expérience du regard à l'aune du regard que lui lance l'homme qui vient à sa rencontre. Alors le regard de l'homme rencontré se révèle comme ce en quoi il attend lui-même la venue de l'autre, c'est-à-dire se découvre lui-même comme tel et est. Le regard qui laisse venir à lui, qu'il rencontre le regard humain ainsi éprouvé, dévoile homme rencontré lui-même dans le fond de son être. Donc là, il est dit que le regard forme la personne. Forme la personne de, à partir du moment où tu ne vois plus. Normalement, le regard, il faut. Tu dois en fait observer ton intérieur. Et ensuite, tu vois le reste du monde. Et ne pas être conditionné par le regard d'autrui si toi, tu n'as pas regardé ton intérieur. Tu vas être un innocent. Innocent par celui qui aura peut-être regardé son intérieur ou non. Mais, ou alors qui s'affichera aux apparences, qui s'arrêtera aux apparences sans ne se poser de questions. Et toi, tu auras ce regard qui te reviendra dans le... Ah, mais non, tu t'habilles d'une façon probablement peu commune. Tu sors. Tu dis, ouais, putain, ça me va vachement bien, j'adore, c'est vraiment moi. Mais ça s'arrête là. Tu t'es jamais posé de questions avant, tu y vas. Et là, dans la rue, il y a des gens qui te regardent d'une façon bizarre et qui même, des fois, disent, ouais, gros naze. Et là, tu reviens, tu dis, ouais, je ne mettrai plus jamais ça. C'est une erreur. C'est qu'en fait, avant de partir, tu ne t'es pas posé les bonnes questions. Et le regard d'autrui t'a détruit. C'est ce que dit Heidegger, et je suis 100% d'accord. 110 même. 110% d'accord. Oh, 300. Allez, 300. 300 qui dit mieux, 500. Ouais. 1000 fois. 1000% mieux d'accord. Putain, bien. Ouais. Mieux, non, mais 1000%. Ouais. Ah ouais. Le regard qui laisse venir à lui. Autrement, tu te laisses conditionner par le regard d'autrui qui lui-même ne s'est pas posé de questions. Donc, c'est. Mais maintenant, il n'y a plus de ça. Maintenant, c'est les écrans. Les gens, ils ne te connaissent pas, et pourtant, tu te laisses amadouer par des bêtises que les gens vont dire. Il lui est arrivé quelque chose à cette personne. Sans se poser de questions, elle va le dire aux autres. Et parce qu'aux autres, ils vont s'identifier à ça, ils vont dire « Ah ouais, ça peut m'arriver aussi. » Et ça se trouve, non, pas du tout. Parce que c'est pas du tout ton truc, quoi. C'est pas du tout ta nature. Heidegger, il est vachement fort. Hein. Et maintenant, la bande originale Les yeux fermés par Terry Riley. D'après, pour nous autres hommes modernes et plus largement pour l'humanité postérieure au monde grec, tout est depuis longtemps à ce point renversé que nous comprenons le regard exclusivement comme une représentation humaine dirigée vers l'étang. Sans ne se pencher sur le regard, en fait, moi je rajoute ça, sans ne se pencher sur le regard, sans ne se pencher sur la, sans ne verser la moindre empathie, sans ne s'intéresser. En fait, on joue les psys, quoi. Ils n'ont aucune empathie, les psys. Hein. Bon, je sais rien, je dis ça, mais je sais pas. Un petit peu, quand même, mais bon. Il faut mieux pour eux, en même temps. Et là, j'avais annoté... la chance au jeu, le langage animal en découle. Ah, il découle de quoi? Il découle de... Ce renversé que nous comprenons le regard exclusivement comme une représentation humaine dirigée vers l'étang. C'est ça. En fait, tu vois, quand tu joues à un jeu de société ou un jeu de machine à fric, j'ai aucune expérience là-dedans, mais tu vas jouer. Tu vas être dans un moment qui va souvent être inconscient. On ne peut pas trop savoir, on ne peut pas trop forcément le commander cet instant. Mais tu vas le faire à un moment et qui va te permettre de gagner. Mais dès que tu as trouvé, tu sais que c'est le bon moment, déjà tu as perdu la moitié de tes chances de remporter le jeu. Et c'est un peu comme le langage animal. Mais ça, c'est tout le temps le regard de l'animal. Tout le temps dans le... T'as l'impression qu'il a fumé un gros joint, quoi. Mais tout le temps. Il est ailleurs aussi, tout le temps. Il est dans l'inconscient. Et c'est ça que je voulais dire. À ce point renversé, que nous comprenons le regard exclusivement comme une représentation humaine dirigée vers l'étang. Humaine. La représentation humaine par le regard. Alors qu'on est capable... Et ça, c'est nous qui l'avons fait, par les outils, les machines, notamment, mais les outils, mais déjà en préhistoire, hein. À la préhistoire, déjà. On voulait quitter le côté invisible. Bah ouais, si vous suivez mes émissions, j'insiste, hein, parce que je dis toujours un peu les mêmes choses, mais ça va avec plus le temps avance, et plus j'ai l'impression de me rapprocher de où je veux en venir, et ce que je veux vraiment expliquer, quoi. Maintenant, en conclusion. En conclusion, l'humain. l'homme. L'homme. Plus particulièrement que la femme. Parce que la femme a toujours un côté, du côté invisible. Rien que par le fait de sa création d'un autre être humain, à l'intérieur d'elle. Oui. Ça, j'en suis sûr. D'ailleurs, on parlait de préhistoire, les Vénus préhistoriques, elles étaient sacrées. Les femmes étaient sacrées. Pourquoi ? Parce que justement, elles étaient du côté invisible. Comme les, comme les animaux peuvent l'être, mais elles avaient en plus la qualité d'être humaines. L'humain, l'homme, donc qualité, je veux dire, l'intelligence humaine. L'humain, l'homme, plus particulièrement, quitte le côté invisible. A quitté le côté invisible à travers l'outil et la machine notamment. Qui ont substitué son engouement, son engagement à la réflexion. Je parle en général. Le confort, le conditionnement, la consommation pour l'obtention d'un meilleur contrôle de sa vie. Donc, le confort, le conditionnement, la consommation pour l'obtention d'un meilleur contrôle de sa vie aliénise, rend l'homme aliéné. Et là, mais maintenant on est rendu tel on est engouffré dans et maintenant c'est plus que l'homme, mais c'est la femme aussi, c'est l'humanité entière qui est aliénée par le système, par sa création propre, son désir de confort, de facilité, de la création de l'outil, de la machine.
Jet FM, oh Jet FM, ne me mens pas, et donne-moi la bonne fréquence, là-bas je ruse avec Johnny, tu bêtes tous les jours, the Russian, what you Capitaine Helmut Schloss, my girl, black girl, where will you go? I'm going where the cold will blow. It's
Pinas vient de me répondre Aletheia égale vérité. Aletheia qui est la traduction grecque vérité. Et Heidegger, il dit sortir de l'étang. Et on pourrait même ajouter l'être sortant qui est la vérité. Donc là, c'est énorme quoi. C'est la vérité. Cette émission est une vérité. Est vérité.